Radio Prague, les informations.
Bonjour, le président confirme que le gouvernement sera nommé le 13 juillet. Kalechtier célèbre Gustave Mahler, l'enfant du pays, et Micheline Prel en guest star du festival de Carlo Vivari. Le président de la République, Václav Klaus, a confirmé mercredi qu'il nommera les nouveaux ministres du gouvernement Nečas le 13 juillet. Les trois partis de la nouvelle coalition gouvernementale ont déjà annoncé s'être mis d'accord sur la répartition des portefeuilles ministériels. Il y aura 15 ministres dans ce nouveau gouvernement qui s'est autoproclamé gouvernement de responsabilité budgétaire. Une fois officiellement nommé, ce nouveau gouvernement devra obtenir le soutien de la Chambre des députés sous la forme d'un vote de confiance qui doit intervenir dans les 30 jours. La coalition disposant d'une majorité confortable de 118 députés sur 200, ce vote ne devrait être qu'une simple formalité. D'après un sondage Median Agency pour le quotidien Lidové-Novéné, 51% des Tchèques ne voudraient pas de Radek Jón, des affaires publiques, à la tête du ministère de l'Intérieur. 46% soutiennent sa nomination et seuls 3% n'ont pas d'opinion. La nomination de Jón à ce poste est sujette à controverse à la fois chez les électeurs de droite et de gauche. Chez les sympathisants des sociaux-démocrates et des communistes, 60% y sont opposés, mais 56% de ceux de l'ODS et 51% de ceux de Top 09 sont également contre. Radek Jón est un ancien journaliste d'investigation qui n'a pas d'expérience de la politique à haut niveau. De nombreuses personnes interrogées s'inquiètent également des connexions du parti Affaires Publiques avec une agence de sécurité dont un des membres est sponsor du parti et le manager. Une collision entre un train et une voiture a fait 3 morts mardi après-midi à Olcichov dans la région de Písek. L'accident s'est produit à un passage à niveau. Le week-end prolongé de 4 jours a été particulièrement meurtrier sur les routes tchèques. 24 personnes en tout ont perdu la vie dans différents accidents entre vendredi et mardi après-midi. De nombreuses autres personnes ont été blessées et d'autres encore sont décédées suite à des noyades dues à l'imprudence ou à une consommation excessive d'alcool. La petite commune de Kalechtier, dans le centre de la République tchèque, célèbre ce mercredi le 150e anniversaire de la naissance du compositeur Gustav Mahler, né à Kalechtier le 7 juillet 1860. Mercredi après-midi, dans la maison où il est né, le baryton américain Thomas Thompson devrait donner un récital. Les célébrations culmineront dans la soirée avec un concert de gala de l'orchestre de chambre Mahler, dirigé par l'Autrichien Manfred Honeck. Au programme, la symphonie numéro 2, appelée Résurrection, composée par Mahler entre 1888 et 1894. Le président Klaus assistera à ce concert en plein air, et sous le lieu de l'ancienne synagogue de la ville a été solennellement ouvert un parc avec une statue du célèbre compositeur. Le président Klaus a assisté à l'inauguration officielle de cette œuvre réalisée par le sculpteur Jan Koblasa. Le festival international du film de Carlo Vivari se poursuit en Bohême de l'Ouest, où est arrivée lundi l'actrice française Micheline Prel, une des principales stars de cette 45e édition, avec notamment l'acteur britannique Jude Law et le réalisateur russe Nikita Mikhalkov. Micheline Prel présente ce mercredi une coproduction franco-italo-belge intitulée Hitler à Hollywood, dans laquelle elle joue avec Maria de Medeiros, elle aussi invitée au festival. Environ 200 films sont projetés dans les différentes salles de la ville thermale, jusqu'à samedi prochain 10 juillet. À partir de cette date, une sélection des films présentés sera projetée pendant une semaine dans les cinémas pragois, Aero et Svitozor. On finit par un mot de météo, un ciel partiellement dégagé et des températures maximales comprises entre 20 et 24 degrés avec quelques orages. Telle est la météo pour ce mercredi, jour de fête des Borislava en République tchèque. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information sur Radio Prague, présenté pour vous par Anna Kubichta.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de l'actualité sur Radio Prague. Au sommaire, après le week-end prolongé en République tchèque par 2 jours fériés, le tunnel Blanka tout d'abord, une partie de ce monumental tunnel en construction sous la ville de Prague s'est à nouveau effondrée. Cinéma ensuite, à Grenoble se tient le festival du film court en plein air et ce mercredi carte blanche est donnée au film d'animation tchèque. Et puis en sport, nous reviendrons sur la performance de Tomáš Berdych, finaliste à Wimbledon, ainsi que sur le comportement de Roman Kreuziger sur le Tour de France cycliste. Très bonne écoute à toutes et à tous. « Comme annoncé dans les titres, le tunnel en construction sous la ville de Prague s'est à nouveau effondré dans la nuit de lundi à mardi. Pas de victimes, même si un des ouvriers est resté bloqué pendant 6 heures avant d'avoir pu être secouru. Ce nouvel accident a relancé la polémique sur l'énorme chantier de ce tunnel appelé Blanka. Alexis Rosenzweig pour plus d'informations.
Un cratère dans le jardin d'un bâtiment du ministère de la Culture dans le 6e arrondissement de Prague. Une nouvelle fois, Blanka a fait des dégâts. C'est le chantier le plus important et le plus cher que connaît la capitale tchèque depuis longtemps. Ce tunnel, qui doit désencombrer la circulation en ville, est appelé à devenir le plus grand tunnel urbain d'Europe, long d'environ 6 km. Mais depuis le début de sa construction en 2007, les problèmes ont tendance à s'accumuler. Des cratères comme ceux que les Pragois ont découverts mardi matin, il y en a déjà eu deux en contrebas dans le parc Stromovka.
Nedovedu si představit situaci, ve které by nebyl nalezen viník této příhody.
C'était en 2008 et à l'époque, le maire de Prague, Pavel Bém, que vous venez d'entendre, affirmait que les responsables ne pourraient rester impunis. Pourtant, l'enquête a été suspendue. Cette fois-ci, le sol s'est effondré à deux endroits, dans la rue Patočkova et à l'angle des rues Ubrusince et Milady Horáková.
Na povrchu vznikl kráter o velikosti 15x20 metrů, a to v zahradě ministerstva kultury.
En surface s'est formé un cratère d'environ 20 mètres sur 15 dans le jardin du ministère, a indiqué la porte-parole des pompiers. Et cette fois-ci, la mairie semble être moins patiente. Selon Rudolf Blažek, l'adjoint au maire de Prague, une fois, deux fois ça passe, mais trois fois c'est inacceptable. Et de menacer dans les colonnes du quotidien Hospodářské noviny de rompre le contrat avec la société Metrostav, la société qui est en charge des travaux, si des garanties ne sont pas données. Metrostav a également été prié de fournir des explications sur ces derniers incidents, et ce, sous 48 heures. La construction du tunnel Blanka devrait coûter la bagatelle de 22 milliards de couronnes, environ 880 millions d'euros, et pourrait être normalement achevée fin 2012, un an plus tard déjà que la date initialement prévue. Le chantier avait déjà provoqué de vives réactions d'associations et de Pragois, notamment des habitants du quartier de Letna, où les murs ont tendance à se fissurer en raison des travaux. Une mission de l'UNESCO est venue inspecter ces travaux et leurs conséquences. Les résultats devraient être publiés à la fin du mois.
On reste avec le cinéma. Du 6 au 10 juillet, la ville de Grenoble, au cœur des Alpes françaises, organise son festival du film court en plein air. Au programme, une soirée carte blanche au cinéma d'animation tchèque le 7 juillet. Pour en parler, Jean Dorel de la Cinémathèque de Grenoble, joint au téléphone par Anne-Claire Veluire.
Le festival du court-métrage à 33 ans, il propose en pleine gratuité pour tous les spectateurs de Grenoble à la fois des films récents en compétition avec plusieurs jurys qui décernent des prix, des films récents et inédits à Grenoble, et puis il y a toute une partie de rétrospectives, de cartes blanches, d'hommages qui ont lieu en journée à la Cinémathèque et pendant le festival.
D'accord, donc dans ce cadre aura lieu une journée carte blanche ou une soirée carte blanche au cinéma d'animation tchèque. Et qu'est-ce que vous allez proposer au public grenoblois?
Alors, on propose une carte blanche au festival du film d'animation tchèque Anifest. En l'occurrence, c'était le directeur de la Cinémathèque, Guillaume Poulet, qui avait rencontré au festival de Clermont-Ferrand, au marché du film, certains responsables de ce festival. Il avait été enthousiasmé par la vivacité et la vigueur de cette nouvelle vague du cinéma d'animation tchèque. Et donc, on propose une dizaine de courts-métrages qui passeront des films plutôt récents et qui ont été réalisés dans les 10 dernières années, avec cette obligation pour nous de passer des films qui puissent être pratiquement sans dialogue. Donc ça donne une programmation d'environ d'un peu plus d'une heure sur des styles totalement différents, à la fois de la 2D, de la 3D, du dessin classique, des marionnettes.
C'est vrai que le cinéma d'animation tchèque est en général assez reconnu dans le milieu. Il y a des grands noms du cinéma d'animation comme Jerzy Tarnka ou Schwenkmayr. Mais j'ai remarqué que dans votre programmation, c'est une programmation de films récents, c'est donc volontaire.
Oui, c'est absolument volontaire, puisque dans cette carte blanche, on voulait vraiment voir ce que fait cette nouvelle génération. On connaît les grands anciens que vous venez de citer, Tarnka et Schwenkmayr, mais et c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout cette nouvelle vague, et on espère que Grenoble sera l'un des premiers à montrer ce genre de film.
Est-ce que d'autres films tchèques ont été programmés dans les éditions précédentes ?
Alors, pas dans les éditions précédentes du festival, parce que là, on essaye vraiment de s'ouvrir à d'autres pays. On restait souvent cantonné au cinéma français, qui est très vivant. Mais en revanche, il nous est arrivé de passer à la Cinémathèque, évidemment, d'autres films d'animation qui viennent de République tchèque.
Une dernière question. Vous m'avez dit que le directeur de la Cinémathèque, Guillaume Poulet, avait rencontré les organisateurs du festival Anifest de Teplice. Est-ce que vous savez si ces contacts vont porter leurs fruits sur d'autres événements ou d'autres manifestations ?
J'en suis à peu près sûr, oui. J'imagine que ces rencontres croisées vont continuer. Peut-être que l'an prochain, qui sait, au prochain Anifest, nous proposerons une carte blanche. Pourquoi pas ? L'avenir nous le dira.
On passe au sport. Malgré sa défaite en 3-7 contre Rafael Nadal, Tomáš Berdych a réalisé la meilleure performance de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem en disputant la finale à Wimbledon dimanche. Désormais 8e meilleur joueur mondial, le tennisman tchèque peut voir encore plus loin. 8e, c'est sans doute également un classement qui satisferait le cycliste Roman Kreuziger à l'arrivée du Tour de France à Paris le 25 juillet prochain, à l'issue de la 3e étape, tant redoutée pour ce secteur pavé. Le coureur tchèque occupe la 16e place au classement général, pas loin d'Alberto Contador et des autres favoris. Demi-finaliste sur la terre battue de Roland-Garros, finaliste sur le gazon de Wimbledon, Tomáš Berdych peut aborder la suite de la saison sur les surfaces rapides et notamment l'US Open, dernière épreuve du Grand Chelem de la saison, avec optimisme et ambition. Mais le Tchèque entend rester les pieds sur terre, comme il l'a confié lundi lors d'une conférence de presse à Prague. Désormais 8e joueur mondial selon le classement ATP, soit 5 places de plus qu'avant Wimbledon, Berdych ne veut pas en rester là.
Cette 8e place est certes mon meilleur classement jusqu'à présent, mais je considère plutôt qu'elle doit donner une nouvelle impulsion à la suite de ma saison. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer, la saison est loin d'être finie, nous n'en sommes qu'à la moitié. Mon objectif en début de saison était de retrouver le top 10, mais l'appétit vient en mangeant et j'espère que je ne m'arrêterai pas à cette 8e place.
Outre l'US Open, Tomáš Berdych a fait du Masters de Londres qui réunira les 8 meilleurs joueurs de l'année, l'autre grand objectif de cette seconde moitié de saison. En revanche, pour la première fois depuis très longtemps, il ne disputera pas le quart de finale de Coupe Davis contre le Chili le week-end prochain à Santiago. La République tchèque, finaliste malheureuse de la compétition en 2009, devra donc se débrouiller sans ses deux meilleurs joueurs, Radek Štěpánek blessé et donc Tomáš Berdych.
J'ai déjà joué beaucoup de matchs cette saison et mon corps n'est pas inusable. Je ne suis pas une machine non plus et je dois faire attention pour éviter les blessures. Je ne pense pas être à 100% de mes moyens après Wimbledon ni être en état de disputer une rencontre de Coupe Davis. J'espère que les gens comprendront. Ceux qui connaissent le tennis savent de quoi je parle. Je suis déçu de ne pas pouvoir aider l'équipe en Coupe Davis. Mais étant donné l'adversaire et les conditions au Chili, je suis convaincu que même sans Radek et moi, les gars sont suffisamment forts pour se qualifier.
Et puis en cyclisme, marqué par de nombreuses chutes, le début du Tour de France a été très nerveux et animé, redouté par une grande partie du peloton et notamment par les favoris pour sa traversée de 7 secteurs pavés. La 3e étape qui reliait Vans en Belgique à Arenberg dans le Hainaut mardi n'a pas fait exception à la règle. Victime d'une chute lundi, Roman Kreuziger s'en est cette fois plutôt bien tiré. Le coureur tchèque a franchi la ligne d'arrivée en 19e position avec 1 minute et 46 secondes de retard sur le vainqueur du jour, le Norvégien Thor Hushovd, mais Kreuziger avait malgré tout quelques regrets.
Bohužel jsem měl trochu smůly v tom, že v tom prvním úseku nevím, kdo tam spadnul, spadli tam ve třech nebo ve čtyřech.
Malheureusement, j'ai eu un peu de malchance dans le premier secteur pavé, une chute de 3 ou 4 coureurs m'a bloqué et j'ai perdu un peu de temps. Je suis ensuite revenu sur le groupe de Lance Armstrong, mais rattraper 20 secondes de retard sur les pavés demande beaucoup d'efforts. Après, une autre chute de Millar et Gerdemann m'a de nouveau fait perdre un peu de temps et l'écart s'est fait avec le groupe de Contador. C'est dommage que je n'étais pas dans ce groupe avec Contador et Vinokourov, parce que j'avais de bonnes jambes aujourd'hui, mais c'est difficile de rouler seul dans ces conditions et sur un terrain pareil, alors que dans un groupe, c'est différent.
Et avant la quatrième étape, ce mercredi, Roman Kreuziger occupait la 16e place au classement général avec 2 minutes et 24 secondes de retard sur le maillot jaune. Le Suisse Fabian Cancerala et moins de 2 minutes sur l'Australien Cadel Evans, le Luxembourgeois Andy Schleck ou l'Espagnol Alberto Contador. C'est déjà la fin de ces faits événements et maintenant, comme chaque mercredi, place à l'histoire sur Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
À Sezimovoussi, près de la ville usside de Tabor, au même endroit où le réformateur de l'église Jan Hus prononçait ses sermons, le ministre des Affaires étrangères de la Première République tchécoslovaque, Edvard Beneš, a fait construire dans les années 1930 une villa. Après qu'il a succédé 5 ans plus tard au premier président Tomáš Garrigue Masaryk, la villa était transformée en résidence présidentielle où Beneš recevait des hôtes du monde entier. Un monument à la mémoire d'Edvard Beneš nous familiarise avec la vie privée et politique du deuxième président tchécoslovaque, considéré comme une personnalité controversée, notamment à cause des décrets portant son nom. C'est dans cette villa que Beneš s'est réfugié après ses 2 abdications forcées, la première à la suite de Munich et la deuxième après le coup d'État communiste, où il est mort et inhumé. Faire de la villa de Sezimovoussi un monument était le souhait de Madame Benešová, qui a survécu 26 ans à son mari. Peu avant sa mort en 1974, elle a légué la villa à l'État, qui l'a fermée au public. Il n'était même pas possible de visiter la tombe du président. Ce n'est donc que 30 ans plus tard que le dernier souhait de Hanna Benešová s'est accompli. La Villa Blanche, incontournable, située au milieu d'un beau parc, trahit l'inspiration venant de l'architecture du Midi de la France, un pays où Beneš a fait ses études, où il a souvent séjourné et pour lequel il avait beaucoup d'estime. Le choix de Sezimovoussi était une affaire de son épouse, Hanna, qui a passé son enfance non loin de là, à Tabor. Dans leur nouvelle maison, les Beneš passaient toutes les fêtes, et tant que le programme chargé le permettait, chaque dimanche. L'historien Stanislav Zita du musée du mouvement Hussite de Tabor, qui m'a servi de guide dans l'exposition Beneš, montre les photos sur lesquelles on voit les foules saluer Edvard Beneš en voiture tout le long du tracé de Prague jusqu'à Sezimovoussi. L'exposition assez réduite est installée non pas dans la villa, mais dans les nouveaux locaux spécialement aménagés à cette fin. Stanislav Zita explique.
Možná jako někomu se zdá rozsahem příliš malý. Myslím si, že
le monument pourrait sembler petit et modeste. Des monuments pompeux et gigantesques, on avait l'habitude de les ériger sous l'ère précédente. Puisque nous sommes ici sur un lieu de piété, près de la tombe familiale des Beneš, on a voulu que le souvenir ait un caractère plus intime. Dans les vitrines, on peut voir quelques meubles de la villa qui ont été sauvegardés, mais celle-ci a été complètement reconstruite dans les années 1970, de sorte qu'il est difficile, voire impossible, de la restaurer dans son état d'origine. Dans cette exposition, on peut voir le fauteuil préféré du président, la lampe et la table où il aimait s'asseoir, lire et écouter de la musique, l'album de disques avec enregistrement des danses slaves d'Antonín Dvořák est un don de la Philharmonie tchèque. Des objets personnels du président, il y a des lunettes et un étui qu'il a acheté en Angleterre. Des photos de la jeunesse d'Edvard Beneš le montrent en joueur de football du Slavia Prague, puis lors de ses études au lycée Carnot de Dijon. Il y a aussi la thèse de doctorat de Beneš sur le thème du problème autrichien et la question tchèque écrite de sa propre main.
Thank you.
La symbolique de la Première Guerre mondiale est représentée à l'exposition par des fusils et des casques autrichiens. Quelques photos montrent Edvard Beneš, Tomáš Garrigue Masaryk et Rastislav Štefanik en exil à Paris, d'où il organisait la résistance anti-autrichienne en formant les légions en France, en Italie et en Russie. Selon Stanislav Zita, Beneš a eu un rôle important pour que la République tchécoslovaque soit devenue un État à part entière dans le monde.
17 let vykonával úřad ministra zahraničí. Žádný jiný politik v Evropě tak dlouho úřad ministra.
Pendant 17 ans, il exerçait les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Aucun autre politicien en Europe n'est resté aussi longtemps dans ses fonctions. En 1935, Edvard Beneš a succédé à Tomáš Garrigue Masaryk au poste de président de la République. Une photo saisit le serment présidentiel et son portrait officiel. Sur plusieurs photos, on voit Beneš en train de négocier avec les membres permanents de la Petite Entente, les chefs d'État et de la diplomatie de Yougoslavie et de Roumanie. D'autres montrent ses rencontres avec l'homme politique britannique Winston Churchill et le roi de Norvège Haakon VII. Très intéressante est la photographie montrant Beneš lors d'une rencontre avec les compatriotes à Cleveland aux États-Unis. En 1939, le maire de Cleveland a offert à Beneš une clé symbolique de la ville en hommage à un événement qui occupe une place importante dans l'histoire de l'État tchécoslovaque. En 1915, les deux plus importantes organisations de compatriotes aux États-Unis et au Canada ont signé à Cleveland une convention sur la création d'après-guerre d'un État commun des Tchèques et des Slovaques.
Po válečném vytvoření společného československého státu.
Après son deuxième départ en exil en 1939, Beneš a vu en vue de maintenir la continuité juridique de la Tchécoslovaquie. En 1942, il a réussi à obtenir l'annulation des accords de Munich de la part de la France et de la Grande-Bretagne et la reconnaissance du gouvernement provisoire comme représentant légitime du pays. Politicien réaliste qui, après les batailles de Stalingrad et de Kursk, s'est rendu compte de ce que l'Union soviétique allait avoir une part décisive à la défaite du nazisme, Beneš a signé en 1943 un nouveau traité avec l'Union soviétique. Or, il s'est trompé en croyant que les soviétiques respecteraient l'article 4 de ce traité où il est dit qu'il ne s'immixerait pas dans les affaires internes de la Tchécoslovaquie. Comme le dit l'historien Zita, il n'est pas entièrement responsable de la tournure des événements.
Sovětský svaz měl lví podíl na porážce Německa.
La défaite de l'Allemagne par l'Union soviétique a eu pour conséquence un glissement à gauche en Europe entière. Des tendances socialisantes étaient présentes également en Italie, en France et dans d'autres pays d'Europe occidentale. Beneš a voulu faire de la Tchécoslovaquie un pont entre l'Ouest et l'Est. Or, il s'est vite avéré que la direction de Moscou avait des intentions tout autres. A suivi en février 1948 le coup d'État communiste. Beneš a refusé de signer la constitution communiste du 9 mai 1948. Le 7 juin, il a abdiqué et s'est retiré à Sezimovouski où il est mort le 3 septembre de la même année. La dernière photo de l'exposition montre Beneš sur son lit de mort, la construction de la tombe familiale et la main du président coulée en bronze par le sculpteur Dvořák, auteur de la statue d'Edvard Beneš, qui se trouve devant le monument et que la ville de Tabor lui a offerte en 1938 avec la dédicace suivante, Tabor à son président.
C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt sur Radio Prague.
en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0:30 horas UTC, los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.